Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous rejoignez. L'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL est donc le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.
Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
10 millions de personnes ont donc reçu leur première injection de vaccin, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons même une semaine d'avance sur l'objectif, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. Cela dit, comme vous présentez la vaccination comme la porte de sortie, est-ce qu'on va la conserver cette avance et est-ce qu'on peut aller plus vite ?
Nous allons de fait plus vite puisque vous connaissez nos objectifs. Le président de la République les a rappelés. C'était 10 millions de primo-vaccinés au 15 avril. Nous y sommes avec un petit peu d'avance. 20 millions de primo-vaccinés au 15 mai et 30 millions au 15 juin. Mmh. Et vous connaissez les autres chiffres qui sont importants. Nous ouvrons la vaccination aux 60-69 ans à compter du 16 avril, puis aux 50-60 ans à la mi-mai, et ensuite aux moins de 50 ans à la mi-juin. Donc ces dates sont des marqueurs de notre campagne vaccinale.
Mais alors, effectivement, les 60-69 ans vont entrer dans la vaccination à partir du 16 avril. Ça fait quelque 8 millions de personnes. On attend 12 millions, plus tous les autres. On se dit, est-ce que la cadence peut être tenue quand même ?
Hier, nous avons battu un record.
Là, en ce moment, les gens nous disent on ne reçoit pas de doses. Les médecins, même les collectivités, on ne reçoit pas de doses en ce moment. Donc, elles ne sont pas arrivées.
Alors, hier et avant-hier, il y a 1 300 000 doses, par exemple, de vaccins AstraZeneca qui sont arrivées dans les pharmacies, plus de 10 000. Chez les médecins libéraux, plus de 30 000. Et pour la première fois, chez des infirmiers et infirmières libéraux qui peuvent aller vacciner au domicile des personnes âgées. Donc si les vaccins arrivent, ils arrivent de toute façon toutes les semaines. Et puis, selon que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca et bientôt d'autres, le Johnson & Johnson va arriver la semaine prochaine, ces vaccins arrivent progressivement et nous les vaccinons tout de suite. Hier, nous avons battu le record, si je puis dire, 437 000 injections sur 24 heures. Et les records sont faits pour être battus, donc nous irons au-delà dans les jours suivants.
437 000 vaccinés hier.
L'équivalent d'un département français vacciné en une journée.
Le président a laissé entendre qu'à la mi-mai, nous pourrions peut-être souffler un peu, commencer à retrouver un semblant de vie. Sauf que l'Institut Pasteur dit, attention, pas avant l'automne, lorsque 90% de la population sera vaccinée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé, Olivier Véran, vous tous, d'annoncer de bonnes nouvelles ?
Il ne faut pas confondre sortie définitive de l'épidémie et sortie progressive des mesures de freinage du virus. Ouais. L'année dernière, souvenez-vous, Alba Ventura, à partir du 11 mai, les écoles avaient rouvert, les commerces avaient commencé à rouvrir, les restaurants, les bars, d'abord en terrasse, puis à l'intérieur. Nous avions retrouvé une vie plus normale, pas totalement normale, mais souvenez-vous qu'au cœur de l'été, les questions qui étaient posées, c'était pouvons-nous être plus de 5000 dans une enceinte ou dans une arène, signe que les gens avaient recommencé à retrouver une vie à laquelle ils aspiraient légitimement. Ce que le président de la République dit, c'est que l'effort que nous faisons actuellement, il va payer, il nous permettra de passer cette troisième vague épidémique, il nous permettra de sauver des vies, de protéger nos hôpitaux, de soulager nos soignants et nos familles, et que de l'autre côté de la vague, nous reprendrons progressivement davantage de liberté que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et les infectiologues, les épidémiologistes ont raison de dire qu'il nous faudra attendre quelques mois encore pour vérifier qu'il n'y a pas un nouveau variant, une nouvelle vague épidémique et que la protection conférée par la vaccination est bien solide et durable, ce que je crois d'ailleurs.
J'ai encore quelques questions sur la vaccination et sur le terrain. Il faut des doses, mais il faut aussi des bras. Vous dites souvent, vous faites souvent référence à la réserve sanitaire. On se dit, elle n'est pas à sec depuis le temps, cette réserve sanitaire. Il y a encore du monde ?
Il y a non seulement la réserve sanitaire, mais il y a aussi ce qu'on appelle la plateforme Renfort Covid. Hier, il y avait 25 000 soignants inscrits sur cette plateforme. 21 000 étaient potentiellement mobilisables. Nous en avons contacté des milliers qui nous envoyons des SMS. 500.
Ce sont qui des retraités
Ce sont des retraités, des étudiants, des libéraux, des hospitaliers qui proposent d'arrêter une activité. D'accord. Pour pouvoir venir aider les collègues dans les hôpitaux où la tension sanitaire est trop forte. En région PACA, ce sont 300 personnes, par exemple, qui ont pu être ainsi déployées en soutien. Et nous, évidemment, nous les accompagnons, nous les rémunérons. Nous avons simplifié toutes les conditions de recrutement. Nous comptons beaucoup sur eux. Les soignants comptent beaucoup sur eux.
On est certain maintenant, Olivier Véran, qu'il n'y aura pas de rendez-vous de vaccination annulé. Ils seront tous honorés désormais.
On est certain que la visibilité a été donnée sur plusieurs semaines à chacun des centres. Vous la retrouvez sur notre site internet en open data. Et donc chaque Français
sur santé.gouv.fr.
Oui, et chaque Français peut aller constater le nombre de créneaux qui sont en théorie ouvert par centre, le nombre de doses reçues et à quelle date, et donc ainsi voir s'il y a de la place et si les centres fonctionnent à flux tendu, ce que nous souhaitons et nous accompagnons, nous professionnalisons, si je puis dire, avec les préfets, les ARS, les centres, pour donner encore plus de visibilité aux Français. Nous sommes en moyenne à 2 semaines de créneaux ouverts, nous pouvons monter à 3 à 4 semaines de visibilité, ce que nous souhaitons.
Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que la dose du soir, ce qu'on a appelé la dose du soir, c'est la dose restante qu'on ne va pas jeter, ça c'est pour tout le monde. Oui, on l'appelle comme ça, la dose du soir.
Mais la règle est simple, Alba Ventura, on ne jette pas de dose. Et je vais vous dire, ceux qui vaccinent dans les centres, ce sont des soignants. Et ils savent le prix, non pas en euros, mais ils savent la valeur d'un vaccin, la valeur de ce que c'est qu'une personne protégée en plus, et donc ils ne jettent pas les doses. En général, et d'ailleurs c'est la meilleure solution, ils ont une liste d'attente de personnes prioritaires qu'ils rappellent quand ils ont fait leurs calculs et qu'ils savent qu'ils ont encore 3 doses qui leur restera en fin de journée.
Monsieur le ministre, 70% des Français favorables à la vaccination, mais 71% qui ne veulent pas du vaccin AstraZeneca, c'est ce que dit un sondage au Doxa, donc... Personne n'a réussi à inverser la courbe de la confiance en fait sur ce vaccin.
Nous avons réussi pour la vaccination en général, puisque le même sondage était en dessous de 50%, il est aujourd'hui à 70%. Ce que je veux dire, c'est que les Français ont confiance dans la vaccination et c'est bien et c'est important. Ils sont nombreux à se faire vacciner. On atteint d'ailleurs des taux de couverture par tranche de population qui vont au-delà de mes espérances. Je vous le dis très, très simplement. En EHPAD, si on m'avait dit qu'on vaccinerait 96% des personnes âgées, or c'est le cas.
C'est le maximum.
96%, vous avez des gens qui peuvent être contre-indiqués ou alors qui ont eu attrapé le Covid dans les semaines précédentes. Donc on est vraiment, je pense, arrivé là très très haut dans la couverture vaccinale. Et c'est tant mieux, nous sauvons des vies. Le AstraZeneca, vous savez, on nous a reproché d'avoir suspendu quand il y a eu un doute au niveau européen. Et on a pu nous reprocher de limiter les indications aux personnes âgées de 55 ans et plus. Mais moi j'en fais, un atout, l'atout de la transparence et de la sécurité avant tout. Et aujourd'hui, les autorités européennes sanitaires nous disent, vous pouvez y aller, la balance bénéfice-risque, elle est très très favorable.
Mais vous savez, vous savez comment ça résonne, la balance bénéfice-risque chez les gens? La roulette russe.
Mais non, oui, j'entends ça.
Mais oui, c'est ce que nous disent nos auditeurs.
Considérez que vous avez 0,2, je crois, personnes sur 100 000, c'est-à-dire 2 personnes sur 1 million qui peuvent présenter un effet indésirable potentiellement grave au-delà de 60 ans. 2 personnes sur 1 million et que vous avez l'équivalent de plus de 1000 personnes qui peuvent, dans cette tranche d'âge, qui peuvent, de l'autre côté, présenter des formes graves de Covid. Ce qu'on appelle balance bénéfice sur risque, c'est que vous avez statistiquement un risque bien plus élevé, mais vraiment, vraiment plus élevé, de faire des complications de Covid que d'avoir autre chose, et notamment un effet indésirable. Donc, ce vaccin, il confère une protection qui est à la fois collective et probablement individuelle et probablement collective, et c'est pour ça que nous l'encourageons. Hier, il y a eu 65 000 injections qui ont été faites d'Astra, des livraisons importantes ont été faites, et puis, les meilleurs promoteurs, c'est pas le politique, encore une fois, c'est pas le ministre, ce sont ces dizaines de milliers de soignants, de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens qui ont commandé ce vaccin pour protéger leurs patients auxquels ils sont attachés.
Olivier Véran, la Haute Autorité de Santé va recommander que les Français âgés de moins de 55 ans ayant eu AstraZeneca en première dose reçoivent en deuxième dose un autre vaccin, un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Ça, c'est confirmé, c'est aujourd'hui.
Ce sera confirmé normalement aujourd'hui. En tout cas, c'est totalement logique. Alors, je n'ai pas à faire l'annonce à la place d'une haute autorité qui est indépendante, et croyez-moi, elle l'est, et c'est très bien ainsi. Mais il est tout à fait cohérent de dire... On ne recommande pas le vaccin AstraZeneca au moins de 55 ans. D'ailleurs, ce n'est pas définitif. C'est en attendant d'en savoir plus. C'est une mesure de précaution et pas une mesure d'éviction. Et donc, si vous avez reçu une première injection et que vous avez moins de 55 ans, on va vous proposer un autre vaccin. Je fais partie de cette population. À 12 semaines après la première injection, vous recevrez une injection d'un vaccin ARN messager. Nous verrons si cela est confirmé. Dans ce cas-là, nous aurons l'occasion de faire l'annonce officielle. C'est près de 600 000 Français qui sont concernés. Et je les rassure tout de suite, si ça devait être le cas, ils auraient leur deuxième injection dans les délais.
Encore une question sur la vaccination. Les enseignants, c'est le grand flou. L'objectif, c'était courant avril, nous a dit Jean-Michel Blanquer, qui était à votre place il y a une semaine. Ça va prendre un peu plus de temps, j'ai l'impression.
Nous sommes en train d'affiner la stratégie vis-à-vis des enseignants, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs importants de notre pays, dits en première ligne et potentiellement plus exposés. Moi, j'ai exprimé le souhait que nous puissions prioriser les enseignants qui travaillent au contact d'enfants en situation de handicap, où le respect des gestes barrières peut être aussi plus difficile. Nous allons avancer assez vite. Ne vous inquiétez pas, une fois que les décisions sont tranchées, arbitrées, ensuite elles se déclinent rapidement.
Voyons la situation à l'hôpital, puisque la tension tension reste forte en réanimation. Vous avez des chiffres ce matin ? Sur les services de réanimation ?
Tous les soirs, au fond, de ce qui se passe dans les réanimations. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ensemble des derniers jours, nous augmentons en moyenne de 50 lits. Chaque jour, nous ouvrons l'équivalent de 50 lits de réanimation dans notre pays. Et chaque jour, nous, entre guillemets, hospitalisons en réanimation une trentaine ou une quarantaine de malades en plus, parfois plus d'ailleurs. Et donc, nous sommes en train de monter nos capacités de réa, toujours pour suivre la demande, progressivement, notamment en faisant appel, vous l'avez dit, à la réserve sanitaire ou aux plateformes renfort Covid. La pression sanitaire, elle augmente dans notre pays. C'était attendu, puisqu'elle reflète la pression épidémique d'il y a 15 jours. Elle continuera d'augmenter encore dans les prochains jours.
On entend ce chiffre affreux de 100 000 décès la semaine prochaine. On pourrait atteindre 100 000 morts la semaine prochaine du Covid ?
Je regarde davantage le nombre de malades au quotidien, de contaminations, qui sont les cas graves de demain, voire les décès de demain. Je regarde aussi le fait que la mortalité dans notre pays, chez les personnes les plus fragiles, a baissé de manière sensible grâce à la vaccination.
Mais là, on est à un pic où...
En termes de pic sanitaire, nous ne l'avons pas atteint, c'est tout à fait normal, puisque, hélas, vous le savez, encore une fois, le pic sanitaire, il succède au pic épidémique. D'abord, vous tombez malade, ensuite, vous faites une forme symptomatique, et puis, ensuite, quelques jours plus tard, vous faites une forme grave et vous allez éventuellement en réanimation. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les efforts des Français, ils seront payants, ils commencent à montrer une inflexion de la dynamique de circulation du virus, notamment d'ailleurs dans les départements dans lesquels nous avions pris les mesures dès le 20 mars, donc dans les départements franciliens ainsi qu'en Hauts-de-France.
Donc là, il y a un léger reflux.
Je ne dirais pas reflux, je dirais une tendance à la stabilisation. Je suis extrêmement prudent, Alba Ventura. Je ne veux pas donner le mauvais message aux Français. Le seul message qu'il nous faut retenir, c'est qu'il faut continuer de rester sur nos gardes, il faut continuer de respecter les mesures de freinage. C'est beaucoup trop tôt pour relâcher quoi que ce soit, sinon ça repartira direct. Mais qu'en revanche, si la question était « les mesures sont-elles suffisantes ?», je ne sais pas encore répondre à cela, nous n'avons pas suffisamment de recul, mais est-ce qu'elles sont marquantes, est-ce qu'elles impactent la circulation du virus ? Nous commençons à en voir les premiers signes.
La réanimation, c'est quand même particulier. Il y a des formations, entend-on dire, rapides, des formations express. On peut former de manière rapide quelqu'un en réanimation ?
On ne peut pas former, on ne peut pas transformer un neurologue, bien placé pour vous le dire, en réanimateur, en trois jours et deux MOOC. Évidemment que non. En revanche, et c'est ce que nous faisons depuis plus d'un an, ce que les hospitaliers font d'ailleurs depuis plus d'un an, c'est que nous formons des soignants, des infirmiers diplômés, des aides-soignants, à des techniques de soins réanimatoires pour aller prêter main forte aux collègues le moment venu. Et ça, ce sont des milliers de soignants qui ont ainsi été formés, sur la base du volontariat d'ailleurs, et je les en remercie parce que c'est précieux aujourd'hui.
Et il y a des renforts qui arrivent en réanimation.
Et des renforts qui arrivent tout le temps en réanimation, à mesure que les besoins sont exprimés, et ces renforts seront encore plus importants dans les 10 et 15 jours qui viennent, à mesure que la pression sanitaire, que le nombre d'admissions en réanimation va augmenter.
Une toute autre question, Olivier Véran, vous êtes exprimé hier à l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation de la proposition de loi sur la fin de vie. Vous dites que le débat mérite d'avoir lieu, mais en fait non, pas maintenant, c'est ça, j'ai compris ça.
Le débat mérite, mais ce n'est pas le moment. Je dissocie la forme et le fond. Sur le fond, quel que soit mon avis sur la question, je constate que le droit est amené à évoluer régulièrement. D'ailleurs, j'ai déjà voté une à deux lois sur la question de la fin de vie. Nous n'avons pas, entre guillemets, soldé le débat sur cette question et les attentes des Français peuvent être fortes. Je dis que sur la forme, alors il y a l'élément de contexte. Nous venons de parler de réanimation, des soignants qui sauvent des vies. On peut toujours discuter de l'opportunité de l'étudier maintenant, mais au-delà de ça, c'est que à travers une proposition parlementaire de loi, n'était conférée au Parlement qu'une poignée d'heures pour légiférer sur ce sujet. Et qu'une partie de l'opposition, des Républicains, a déposé plusieurs milliers d'amendements visant à empêcher le débat parlementaire. Je note que le débat a commencé, qu'une partie du Parlement présente a pu exprimer un avis qui était assez tranché sur la question, et que j'ai pris des engagements devant eux, relancer un plan soins palliatifs, augmenter les moyens des soins palliatifs, mieux former les soignants à la sédation profonde telle que nous l'avions voté
contre le droit à l'euthanasie.
Mais j'ai annoncé aussi de saisir le Conseil consultatif d'éthique. Ce n'est pas la décision d'un ministre, c'est la décision des Français. Et pour cela, il faut aussi avoir le mandat des Français. Et le président de la République n'a pas été élu sur la base programmatique d'ouvrir l'euthanasie. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en débattre et ouvrir ce sujet pour des moments ultérieurs.
Merci, monsieur le ministre.
Le ministre Olivier Véran qui annonce sur RTL la vaccination de 430...